Bienvenue sur les chemins du vendredi où cette semaine j'ai le grand plaisir de vous proposer le portrait d'un homme essentiel et méconnu. Pour vous en parler aujourd'hui, Olivier Philippona, son biographe, et Jean d'Ormesson, qu'il a bien connu, sont à mes côtés en studio, en route, sur les chemins de la philosophie, à la rencontre d'Emmanuel Berle. Il est tout simple que je ne me retrouve ni dans ma personne, ni dans mon histoire. Ma personne, comme toute personne, mon histoire, comme toute histoire, sont des labyrinthes qui se compliquent à mesure qu'on y avance. Aucune Ariane ne connaît l'entrée ni la sortie de cette ermitière monstrueuse. Mais leur opacité est percée de quelques rares créneaux qui ouvrent sur des êtres et même sur des vies qu'on aurait pu vivre. Elles étalent, au loin, leur virtualité, comme dans les tableaux de Van Eyck surgit, à travers une brèche, tout un paysage, avec des eaux, des arbres, une ville pleine d'hommes et de femmes, dont la macrophotographie révèle le pullulement que l'œil devinait à peine. Ces ouvertures, je les appelle « grâce », faute d'un autre mot qui ne soit pas moins juste et qui soit plus humble. Il a du moins l'avantage de marquer qu'elles s'opposent à ma nature, qu'elles ne sont pas des parties élégantes de ma biographie, des italiques dans le corps du texte, mais bien des hors-textes. Il arrive d'ailleurs qu'elles ne le restent pas. Elles peuvent s'intégrer à nos vies, mais elles changent alors de caractère. Une grâce par nous assimilée cesse d'être une grâce, elle devient vertu. Bonjour Olivier Philippona.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes l'auteur d'une biographie, le co-auteur d'une biographie avec Patrick Linhart d'Emmanuel Berle, intitulée Cavalier seul. Le titre est magnifique et très juste. Publié aux éditions Vuibert. Et à vos côtés se trouve Jean d'Ormesson. Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Comment connaissez-vous Emmanuel Berle? Vous l'avez rencontré et bien connu.
Moi, je connais Emmanuel Berle de façon assez étonnante. Je connaissais un peu, j'avais lu Sylvia ou Mort de la pensée bourgeoise, et je lui avais envoyé un livre. Je ne sais plus du tout quel livre c'était, et il m'a envoyé une lettre qui m'a fait tellement plaisir qu'elle m'a fait un peu peur. Et il m'a été impossible de lui répondre. Impossible de lui répondre. Et je passais, je savais son adresse, on me l'avait donnée, et je passais devant sa maison, rue de Montpensier, au 36 de la rue de Montpensier, quand je me suis dit, je vais monter le remercier. Et j'ai sonné, et je suis tombé sur Mireille.
Sa femme. Et la chanteuse.
Qui était une chanteuse illustre à cette époque-là. Il y avait une chanson qui s'appelait « Coucher dans le foin » que je pourrais vous chanter si vous vouliez.
Pourquoi pas, à la fin de l'émission.
Non. Et c'est elle qui m'a ouvert la porte et il y avait une jeune personne derrière elle que j'ai rencontrée avec beaucoup de plaisir, qui était Françoise Hardy. J'ai connu non seulement Berle, mais Françoise Hardy en prime. Et elle m'a mené chez Emmanuel Berle. Et évidemment, il y a eu quelque chose de ma part qui était presque une sorte de coup de foudre pour lui. Je le trouvais magnifique, merveilleux. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Et je crois qu'il était indulgent à mon égard. Et j'ai été le voir, mais je crois, naturellement toutes les semaines, mais peut-être deux ou trois fois par semaine. C'était mon occupation principale.
Et vous comparez vos rencontres à des séances de psychanalyse, dites-vous, parce qu'il parlait beaucoup et vous étiez réduit au rôle de celui qui dialogue avec Socrate dans les dialogues de Platon.
C'est
qui
tout
dit
à fait ça.
Oui, bien sûr. Oui, monsieur.
C'est mais ça, assurément Socrate, comme
voilà.
Raison Socrate. Et ce qui avait d'intéressant, c'est que, évidemment, je n'étais pas son disciple, et il n'était pas mon maître. C'était pas quelqu'un qui était le maître de quelqu'un. J'ai été le disciple de Jankélévitch ou d'Hippolyte. J'ai jamais été le disciple de Berle. C'était plutôt comme une espèce de grand frère, presque de copain que j'admirais.
Alors Olivier Philipponnet, on peut dire quand même pour ceux qui ne le connaissent pas, car ils sont nombreux, hein, malgré votre biographie, enfin espérons que cette biographie remédie à cet état de fait que l'on doit constater quand même. Un peu de gens savent qui est Emmanuel Berle. Il est né en 1892, il est mort en 1976, et toute sa vie, s'il a beaucoup écrit, il n'a cessé de dire qu'il ne pouvait vraiment s'engager vraiment dans quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il ne reste rien aujourd'hui qu'on pourrait brandir en disant voilà ce qu'il a légué au siècle suivant.
Non, c'est vrai, cela procède un petit peu de ses lectures de jeunes hommes et même d'enfants qui l'ont marqué. On le compare toujours à Montaigne ou à Voltaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Voltaire chez Berle, mais les lectures qui l'ont le plus marqué jeune homme, c'est Fénelon, le Télémaque, et c'est Goethe. Et Goethe lui a enseigné ça, c'est le renoncement. C'est-à-dire qu'on ne peut assimiler les choses, assimiler les savoirs, les posséder vraiment qu'en y renonçant. Ce qui explique que, par exemple, son œuvre ne forme pas une œuvre, ce sont des livres qui se succèdent les uns aux autres, et de la même façon, il est passé d'un pseudo-engagement politique à un autre. Il a connu absolument tout ce qui compte en littérature française depuis Proust et Barrès. Proust qui était un de ses...
Avec qui il a correspondu, parents, avec lequel il s'est brouillé.
Et Bergson, un autre de ses parents proches, jusqu'à Patrick Modiano, Jean d'Ormesson. Et entre les deux, il connaît Camus, il connaît Drieux-La Rochelle qui a été un de ses proches amis dans les années 20 et 30. Il connaît très bien Malraux, dont il a été vraiment un complice jusqu'au moment où Malraux s'est engagé dans le gaullisme. Et c'est ce qui est surprenant chez Berle, c'est ce côté aventurier finalement, aventurier de l'esprit, qui ne cesse de changer de cheval, un petit peu comme Wilhelmeister.
Dans l'extrait que j'ai lu en début d'émission, un extrait de son texte « Rachel et autres grâces », qui est magnifique, qui date de 1965, on y trouve l'idée d'une biographie impossible. Et cela aussi lui est très cher, cette incapacité, ou peut-être cette impossibilité, à faire œuvre et à pouvoir déceler une cohérence dans sa propre existence, dans laquelle il a écrit quand même une trentaine de livres, il a dirigé Marianne, il a quand même eu des occupations qui marquent l'histoire intellectuelle d'un pays.
Oui, mais je crois que dans les entretiens que Jean d'Ormesson a enregistrés pour la radio avec Emmanuel Berle, 68 je crois, si j'ai bonne mémoire, vous abordez ce...
Diffusé en 68, oui.
Ouais, vous abordez cette question. Berle se voit lui-même comme une espèce de feuilleté. Il se voit comme un homme qui accumule plusieurs couches d'existence et aucune ne coïncide avec l'autre. Et tout l'objet de l'autobiographie pour lui, il n'en a pas écrite, c'est de rassembler toutes ces pièces de puzzle, mais qui ne coïncident pas.
Jean d'Ormesson.
Eh bien, vous avez dit déjà l'une et l'autre des choses essentielles. Dans le petit texte que vous avez cité au début, il parle de la complexité de l'existence. Aucune Ariane ne pourrait...
nous guider hors des labyrinthes.
Et je crois qu'un des thèmes favoris de Berle, il en avait beaucoup, c'était que les différentes époques d'un personnage n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ça m'avait beaucoup frappé. Il me disait, je ne me reconnais en rien dans la personne que j'étais comme jeune homme. Il pensait là aussi, comme pour son œuvre, que les choses étaient discontinues. C'était un homme du discontinu. On parle de peintre pointilliste. Je dirais peut-être volontiers que c'était un écrivain pointilliste. Et naturellement, du même coup, c'était quelqu'un qui ne s'engageait pas. S'il y a un mot qui lui est contraire, c'est le mot de « engagement ».
Alors on va entendre un extrait de cet entretien qu'il vous a accordé, Jean d'Ormesson, dans les grandes heures de la radio, un entretien disponible à l'INA, dans lequel Emmanuel Berle explique que son rapport à l'écriture, et il explique que pour lui, écrire, c'est essayer de comprendre, et que bien souvent, il n'y arrive pas.
J'ai toujours écrit pour essayer de mettre un tout petit peu d'ordre dans l'extrême confusion de mes idées. J'ai essayé ou bien de me défouler quand j'étais en colère, ou bien d'examiner un certain nombre de questions que j'arrivais pas à résoudre sans écrire. Ça. La guerre israélo-arabe, je la connaissais pas avant d'écrire. J'ai été agacé par un certain nombre de mes confrères. Et je me suis dit, il faut que je regarde ça. Et j'ai écrit mon livre, Nasser tel qu'on le loue, ce qui est un titre déplorable que j'ai emprunté à Peggy, ce qui a fait que personne ne l'a compris. Mais je l'ai écrit ne connaissant pas la question. Bien, et je l'ai étudié, je me suis fait donner des documents au fur et à mesure que j'écrivais. Ça, c'est mon côté... 18e siècle.
Il a vraiment la voix de son époque, hein, Jean d'Ormesson. Je me faisais la réflexion en l'écoutant. Ça pourrait être la voix de Sartre, d'ailleurs.
Écoutez, d'abord, cette voix m'a évidemment ému. Ça m'a ému. J'ai été très, très attaché à cette voix. Et c'est amusant parce que on voit que dans cette complication, il y a sans cesse un besoin d'ordre. Quand même, il dit, j'ai écrit, il s'excuse un peu toujours d'écrire. Et c'est un homme qui a tellement de facettes qu'il est bien difficile à saisir. Je pense que peut-être qu'on pourrait voir qu'est-ce qu'un homme comme Morin, Edgard Morin, avec sa complexité, pense de Verne. C'était un homme très, très compliqué.
Olivier Filippona, dans votre biographie, vous essayez quand même de mettre en ordre cette vie, même si lui-même ne lui en donne pas un seul. Vous montrez qu'il y a quand même certaines parties très, très importantes dans son travail, dans son existence. Il y a notamment tout un pan de son travail qui s'intéresse et qui travaille sur la question de la bourgeoisie et qui se positionne clairement contre la bourgeoisie de son temps.
Ouais, c'est un bourgeois, un grand bourgeois même, issu de la grande bourgeoisie juive parisienne, Emmanuel Berle, mais qui est un petit peu en infraction avec son milieu d'origine. Ce qui est frappant finalement dans la destinée de Berle, c'est que jusqu'à 30 ans, il est orphelin très tôt de ses parents, d'un frère qui est mort-né, d'un cousin qu'il a adoré, Henri Franck, qu'on a présenté comme le Peggy juif, qui est mort en 1912. Il fait la guerre, et vraiment dans les pires conditions, de 14 à 17. Et finalement, il débute sa carrière d'écrivain, il a presque 30 ans. Quand il écrit « Mort de la pensée bourgeoise », qui est l'essai qui le fait connaître, qui est une sorte d'explosif, ça paraît en 1929 et il envoie effectivement, il envoie balader tout ce qu'il était. Il a expliqué lui que c'était dû à la rencontre qu'il avait faite d'Aubervilliers, de Suzanne Musard, qui sera sa deuxième épouse, qui venait d'Aubervilliers, des milieux populaires. Ça explique aussi qu'il épousera Mireille. Il est passionné de chansons populaires, il est très attiré par la culture populaire. La question de la culture est une question qui le hante toute sa vie. Il cherche à une solution pour que la culture soit véritablement offerte à tous, à toutes les classes de la société.
Oui, il dit la culture est un système de valeurs dressé contre le prolétariat et restera-t-elle nécessairement ?
Il y a beaucoup des expressions qu'il utilise dans Mort de la pensée bourgeoise et à la fin des années 20 qui préfigurent toute la terminologie qui sera reprise d'abord par Nisan dans Les Chiens de garde et beaucoup, beaucoup plus tard par Bourdieu. Les notions d'héritage culturel, de mots de passe, etc., de distinction, ce sont des termes qu'on trouve déjà chez Berle en 1929. De ce point de vue, Bourdieu n'a pas tout inventé.
Jean d'Ormesson.
C'est bien intéressant parce que, en effet, il est. Je vois très bien ce que vous voulez dire dans votre merveilleuse biographie. Il faut dire que ce livre est tout à fait passionnant. Bourdieu est un nom qu'on peut prononcer à propos de Berle. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on peut aussi prononcer le nom de Drieux-La Rochelle. Et alors, c'est quand même extraordinaire qu'un même homme soit si proche de Drieux-La Rochelle et si proche de Bourdieu en même temps. Et évidemment, tout ça a culminé dans quelque chose que vous connaissez, c'est qu'un jour, je suis arrivé chez Berle, je sortais d'un dîner ou d'un déjeuner où on m'avait parlé de Berle et où on m'avait dit que Berle avait écrit les discours de Pétain. Et j'arrive et je dis à Berle, vous savez, les gens disent n'importe quoi. Vous savez ce qu'on m'a dit, que vous avez écrit les discours de Berle.
Et c'était
de Pétain. Et il m'a dit, avec un calme majestueux, mais c'est tout à fait vrai. Alors là, je tombais des nues, je lui ai dit, enfin, vous qui êtes juif, qui êtes socialiste. Je ne suis pas socialiste, m'a-t-il dit, je suis communiste. Il était communiste comme je suis archevêque, mais il était en même temps un peu de tout. Et je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous a fait écrire les discours de Pétain, qui étaient très beaux d'ailleurs, les premiers discours. Et il m'a répondu... Ils étaient si faibles, il fallait bien les aider un peu.
Oui, Olivier
Philippe, quand même inouï comme idée politique.
Et oui, il les a écrits ou corrigés ou améliorés, c'est ça? Ou il était vraiment l'auteur de ces discours?
En tout cas, il est l'auteur des plus fameuses formules du troisième et quatrième message de Pétain avant le régime de Vichy. Hein, on est en juin 1930.
Ah oui, je crois que la Terre, elle, ne ment pas. Je crois que je tiens les promesses, même ceux des autres.
Ça, ce sont des formules qu'on lui doit, qu'il a mis dans la bouche de Pétain.
C'est de lui. Ah ouais. C'est de lui.
Et ce qui est frappant, pour rejoindre ce que vient de dire Jean d'Ormesson, c'est que dans Marianne, le grand hebdomadaire luxueux où se rencontrait toute l'intelligentsia française de 32 à 36, on rencontre des gens qui vont se haïr à partir de 1940. Il fait écrire dans son journal Drieu et Morand, il fait aussi écrire Brossolette et Claude Bourdet, par exemple. Et tous ces gens vont être amenés à se haïr en 1940. Berle arrive à faire cohabiter tous ces gens-là, à faire cohabiter Bernanos, par exemple, au grand scandale de beaucoup d'électeurs de Marianne en 1934, et Jean Guéhenot, par exemple, ou voilà, donc des gens qui n'auraient rien à voir ensemble si Berle n'était là pour leur servir de point commun.
Un autre homme qu'il a fréquenté, avec lequel il a beaucoup correspondu et avec lequel il a fini par se brouiller, c'est Marcel Proust. Écoutez-le parler de sa rencontre et de sa brouille avec Marcel Proust.
Mon rapport avec Proust est très particulier. C'est extrêmement sérieux. Ça a eu une très grosse importance dans ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que Marie Duclos m'ayant envoyé un livre de Proust qui était, je crois, Sésame et Lys, je lui avais répondu du front. Alors, comme c'était une lettre très admirative pour la préface de Proust, Marie Duclos l'a envoyée à Proust. Et Proust m'a écrit. Et il m'a envoyé beaucoup de lettres. Je n'ai eu au moins la valeur d'un volume et demi que j'ai perdu dans les tranchées. Alors, il a considéré que, étant donné que j'avais risqué d'être tué en le lisant, il avait des obligations envers moi. Et il m'a fait un cours. Il a voulu m'enseigner les vérités. Et on ne peut pas du tout dire, justement, je n'ai pas du tout connu le Proust tellement gentil, qui vous bourre de champagne et de poulet. Ça, ouais. Et il ne m'a jamais donné rien à boire et rien à manger. Mais il m'a enseigné les vérités. Jusqu'à ce que ça tourne mal. Avec la lettre de Sylvia que je lui ai portée triomphalement et qui n'a pas voulu admettre qu'il puisse y avoir une communication entre personne et personne, vu qu'il considérait qu'il n'y en avait pas eu avec sa mère. Enfin, là, on était sur les complexes, lui sur les siens, moi sur les miens, et ça a tourné très mal, il m'a lancé les pantoufles. J'ai vu le moment où il allait me taper dessus, n'est-ce pas? J'étais disciple. Et mon devoir par rapport à lui était d'entrer dans le travail qu'il était en train de faire, c'est-à-dire son roman. Il m'a envoyé d'énormes lettres, comme des cadeaux, que vraiment j'aurais dû mieux conserver.
Alors, il regrette de ne pas avoir conservé ces lettres qu'il avait reçues pourtant comme des cadeaux, Jean d'Ormesson. Mais là, on entend qu'il y a une origine à cette brouille, c'est qu'au-delà peut-être des désaccords, il y a quand même un grand point de discorde sur la conception de l'amour, il en parle plus loin. Voilà. Parce que pour lui, Proust véhicule la conception romantico-bourgeoise de l'amour contre laquelle il s'oppose.
Oui, absolument. Et c'est un problème de communication, disons en gros... que Proust ne croit pas à la communication et que Merle croit à la communication. Et du coup, Proust envoie, d'après ce que Merle m'avait raconté, des pantoufles à la tête. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Mais il racontait ça, en effet. Et évidemment, c'est dommage qu'il n'ait pas gardé les lettres de Proust, qu'il les ait perdues. Il est au centre, n'est-ce pas, de toute une galaxie d'esprits. Il y en a, alors, bon, Proust, Rieu, on les connaît. Henri Franck, qui m'a beaucoup parlé d'Henri Franck. J'ai eu tort, je n'ai pas cherché. Il avait écrit quelque chose qui s'appelait La danse devant l'arche.
La danse devant l'arche.
Est-ce que c'est exact?
Oui, oui.
Je ne l'ai jamais lu.
Qui est un immense.
Alors qui est Henri Franck?
Oui, c'est magnifique. C'est une série de plusieurs centaines de stances assez claudeliennes, assez péguistes aussi dans l'esprit. On l'a appelé le Péguy ou le Barès juif. On comparait vraiment à ça. Et il y a chez lui Franck, le cousin vénéré d'Emmanuel Berle.
Berle mettait Franck très haut.
Très haut, mais il n'a pas été le seul. Léon Blum aussi, par exemple, a écrit de très beaux textes en hommage à Franck. Bergson a prononcé une oraison funèbre lors de son enterrement en 1912. C'est vrai que c'est un écrivain absolument magnifique, mort très jeune, qui a été un ami très proche d'Anna de Noailles, comme l'a été Berle également. Malheureusement, je crois que ce grand poème d'Henri Franck, La danse devant l'arche, tant compté pour Berle, n'est plus disponible.
Alors, sur la querelle avec Proust, quand même, oui, on peut y rester un instant, Olivier Philipponnet, parce que vous en parlez dans votre biographie. On voit que ça a pris quand même une importance énorme pour Berle. S'il n'y avait pas eu cette correspondance et même cette brouille, dit-il, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit ensuite.
Et il n'aurait pas écrit notamment son premier livre publié, qui sont des recherches sur la nature de l'amour, qui ont beaucoup intéressé Barrès, d'ailleurs, peu de temps avant sa mort. La querelle sur l'amour, elle est la suivante. Berle a été très amoureux d'une jeune femme qui est réapparue dans sa vie un petit peu comme un fantôme et qui deviendra Sylvia dans son plus fameux livre, le plus proustien en tout cas, en 1952. Et fin 1918, étant définitivement réformé, il annonce à Proust avec une grande joie qu'il va probablement se fiancer et Proust devient livide. Proust considère, selon Berle, qu'un amour qui trouve son objet n'est plus un pur amour, pour reprendre une expression de Fénelon, encore une fois. Et Berle ne supporte pas d'entendre ça. Il ne supporte pas d'entendre que l'objet de l'amour, c'est-à-dire sa fiancée, n'est pour rien dans l'amour qu'elle inspire. Et il dit quelque chose, il dit ceci à Berle, en substance, mais finalement, pour vous, vous ne faites aucune différence entre l'amour et l'onanisme. Et ensuite, c'est le jet de pantoufle. Proust n'a pas supporté, semble-t-il, d'être en quelque sorte deviné par un jeune homme qui était plus ou moins son neveu qui l'avait percé à jour.
Et pourquoi, à partir de là, Berle se met-il à écrire? Parce que ça montre bien que ce que Proust lui dit fait son chemin dans son esprit. C'est uniquement pour donner tort à Proust?
Je pense que ça l'a fait. Non, je ne pense pas. Je pense que ça l'a fait réfléchir, effectivement, sur la nature de l'amour. Est-ce que l'amour est un élan spontané du sujet, ou bien est-ce que l'objet de l'amour prend une part? Est-ce que c'est une œuvre commune? C'est toute la question qui est discutée dans son premier livre.
Écoutons-le en parler à votre micro, Jean d'Ormesson. C'était donc en 1968.
Si Proust s'était borné à dire les choses de l'amour, et d'ailleurs les autres, tournent généralement mal, il n'aurait eu absolument raison. Mais il ne disait pas ça. Il disait que les choses n'étaient pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune communication possible entre quelqu'un et quelqu'un. Ni entre quelqu'un et quelque chose. On ne communique peut-être pas toujours autant qu'on le voudrait. Mais d'un autre côté, si on communiquait plus qu'on ne veut, on serait aussi bien ennuyé. Elle ne m'a pas du tout dit. Non, elle m'a dit. Oui, après quoi elle m'a dit « Mon père et ma mère veulent pas et j'ai pas le courage d'aller contre eux. » Après quoi je lui ai dit d'aller dans une école d'infirmière où je lui avais retenu une bonne chambre, où je désirais, en somme, avant tout qu'elle s'en aille. Vous savez, elle n'est pas la seule fille avec qui j'ai voulu me marier qui n'ait pas voulu. Les échecs, il y en a beaucoup. Et moi, j'avais évidemment assez besoin d'avoir une fille avec moi parce que les hommes, ça peut pas vivre tout seul, ça sait rien faire. Moi, je n'ai jamais pu beaucoup me passer de fille. C'est-à-dire une grosse faiblesse.
Mercredi, c'était ma fête. J'avais le cœur tout content et j'entendais dans ma tête tous les refrains du printemps. J'avais été pour plaire à Jules chez le grand coiffeur de Chatou. Mon Jules aime bien quand j'ondule. J'étais pimpante et puis surtout j'avais mis la robe qu'il aime. Un amour de robe, un poème. Une robe avec des festons et des tas de petits boutons et des petites fleurs sur le côté avec un petit genre décolleté. J'avais l'air d'un chou à la crème. A tenté le diable lui-même. Jules est arrivé du bureau et puis il a lu ses journaux. Il est reparti sans dire un mot. Quel chameau.
J'arrivais, je sonnais, une dame m'ouvrait, amicale, petite et vive. C'était Mireille. Je n'en revenais pas, je ne savais rien. Quoi, Mireille? Est-ce que c'était par hasard la Mireille des chansons? Couchée dans le foin avec le soleil pour témoin, m'était aussi familier que « Ils sont arrivés se tenant par la main » ou « Ah, si vous connaissiez ma poule ». Mireille me disait quelques mots, me parlait quelquefois de son petit conservatoire où elle était très contente d'une débutante qui s'appelait Françoise Hardy et me menait chez Théodore. On trouve ces lignes dans votre préface, Jean d'Ormesson, qui a été reproduite pour l'occasion de cette biographie, hein, Cavalier seul, coécrite par Olivier Philipponac avec nous aujourd'hui aussi et Patrick Linhart aux éditions Vuber. Vous dites votre rencontre avec Mireille, vous dites Mireille me conduit chez Théodore.
Oui.
Mais qui est Théodore?
Alors je n'ai jamais su d'où venait.
C'est le surnom d'Emmanuel Berle.
Oui, Mireille appelait Berle toujours Théodore.
Et vous ne savez pas pourquoi?
Eh bien, je n'ai jamais pensé à leur demander pourquoi Théodore. Je pensais que M. Philipponac...
Connaissez-vous la réponse?
C'est tout.
J'en ai plusieurs.
Ah.
Mais aucune n'est la bonne, je le crains. Toujours est-il que sur la tombe d'Emmanuel Berle est gravé le nom de Théodore. Ici sont enterrés la chanteuse Mireille et Théodore, et puis ensuite Emmanuel Berle. Théodore, nous en parlions tout à l'heure avec Jean d'Ormesson, c'est le nom d'un personnage de Proust quand même, un personnage très secondaire. Il me semble que c'est le Bedeau de Combray qui est réputé pour son bavardage incessant. Mm-hmm. Ça pourrait peut-être venir de là, mais je ne sais pas si Mireille avait lu Proust. Elle expliquait que Théodore, dans son esprit, ça signifiait ça renvoyait à un personnage barbant, un Théodore. C'était devenu presque un nom commun pour elle. Il y a peut-être une autre explication possible, c'est qu'on a rappelé que Drieux et Proust et Berle ont été très proches. Et dans un des romans de Drieux qui s'appelle Gilles, où Berle est très malmené, Drieux lui a donné le nom de Preuss. Et l'année même de la parution de Gilles est mort un grand scientifique allemand connu à l'époque qui s'appelait Theodor Preuss. C'est peut-être l'explication, elle me paraît un peu complexe.
Alors on trouve dans les nombreux ouvrages d'Emmanuel Berle quelques moments aussi d'autodérision. Dans l'extrait qu'on a entendu, il disait bien qu'il ne pouvait pas du tout se passer de fille, qu'un homme sans fille de toute façon s'ennuierait absolument. Et on sent qu'il y a une pointe d'ironie parce qu'il raconte en même temps qu'il, dans le cas précis, n'avait pas été très heureux en amour, non? Vous n'êtes pas d'accord?
Ah non, on ne peut pas dire qu'il était très heureux en amour avec celle qu'il appelle Sylvia, et dont le véritable prénom était Suzanne. Mais... il a aimé poursuivre ce fantôme toute sa vie.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il se met en scène, il arrive à rire de lui, mais on sent qu'il tire toujours un certain profit ou un intérêt des situations dans lesquelles il se met, y compris dans les situations qualifiées de bêtes. Il y a des très belles lignes sur la bêtise,
oui,
qu'on trouve dans les certitudes vaines. Il écrit ceci: « La bêtise me guettait, j'avais pour elle de sérieuses dispositions. L'ordre édouardien qui régnait encore au temps de mon adolescence poussait chacun de nous vers une bêtise particulière, soigneusement préparée pour l'accueillir. Bêtise du lycée, bêtise de l'école des sciences politiques, bêtise de la Sorbonne, bêtise du nationalisme et de l'internationalisme, du scientisme, de la théosophie, bêtise de l'armée et de l'antimilitarisme. On était bien servi. Le divorce semblait encore un quasi-délit. L'homosexualité, une exception teintée d'exotisme, un peu comme la fièvre de Malte. Passer entre les gouttes n'était pas tellement facile. Je me suis souvent défendu comme j'ai pu, souvent par le cynisme, le paradoxe et l'agressivité. La peur de devenir bête m'a fait dire beaucoup de bêtises. »
C'est quand même épatant.
Et alors on trouve là la référence très importante pour Emmanuel Berle à l'antimilitarisme. C'était un pacifiste convaincu.
Oui, mais qui dit pacifiste ne dit pas antimilitariste. Son pacifisme, évidemment, il s'ancre dans son expérience de la Grande Guerre, dont il a un peu parlé dans des termes très forts qui rappellent souvent Giono. Il a véritablement vécu en Lorraine en 1915 le pire de ce qui pouvait se vivre dans les tranchées. Mais son pacifisme, il datait déjà de 1912. Déjà en 1912-1913, jeune homme, les tensions franco-allemandes depuis les affaires du Maroc, etc., le consternaient. Et le pacifisme, c'est vraiment effectivement une ligne rouge, un fil d'Ariane dans toute sa vie. C'est quelque chose auquel il ne dérogera jamais.
Comment il se manifeste politiquement, ce pacifisme?
Il se manifeste de la façon la plus éclatante en 1938, au moment de Munich. Berle a été un munichois, non sans arguments. Il avait des arguments très recevables ou pas, mais solides pour l'être. Et ça, c'est un engagement qu'il n'a jamais renié. S'il en a eu un, c'est bien celui-là. C'est que la paix peut se faire et doit se rechercher à tout prix. Elle est exigeante, mais il faut payer le prix quand on peut l'obtenir. Bon, on connaît évidemment la suite de l'histoire.
Vous dites quand même dans votre biographie que l'action politique, après la Seconde Guerre mondiale, a perdu tout avantage à ses yeux. Il la croit impuissante à faire face aux enjeux globaux qui seuls pourront se poser aux hommes. On aurait pu attendre de lui qu'il devienne le premier contradicteur du général de Gaulle, retrouvant pour l'occasion sa verve pamphlétaire. Mais sa colère s'est calmée.
Je crois surtout que c'est Berle qui avait perdu tout avantage pour la politique. Il était devenu, après-guerre, inutilisable. Berle n'a rien commis de répréhensible sous l'occupation. Il n'a occupé aucun poste officiel. Il n'a pas publié de livre. Il n'écrivait pas dans les journaux de Vichy ou de la collaboration. Et de ce point de vue-là, il n'a pas été inquiété. Mais il a été poursuivi par l'ombre des fameux messages du maréchal Pétain. Et oui, bien sûr, Berle a été maréchaliste pendant plus de 10 jours, en tout cas. Il a laissé penser qu'il était resté un mois. Il l'a été davantage que cela, mais beaucoup moins que d'autres.
Jean d'Armesson.
Je voudrais peut-être revenir sur deux points. La politique, d'abord, mais avant, l'amour. L'amour, il ne m'a jamais parlé de Mireille. Jamais. Elle était dans la pièce d'à côté, mais il ne m'a jamais parlé d'elle. Il ne m'a jamais parlé de Sylvia. Naturellement, je lui avais parlé du livre. Il m'a parlé que d'une seule personne. Moi, j'ignorais tout et j'étais babade. Il m'avait dit « Oh, je ne vois plus personne. Je parle juste de temps en temps avec Malraux et avec vous. » Alors moi, j'étais fou. Et il m'a parlé de Suzanne. Suzanne était une jeune personne d'un milieu ouvrier qui s'est débrouillée dans la vie comme elle pouvait. Et il l'avait partagé, il m'a expliqué ça, avec Breton. Et je lui disais, mais comment ça se passait ça alors? Vous la voyez de temps en temps? Vous la voyez ensemble? Comment? Bon, vous savez, elle passait une semaine avec Breton et une semaine avec...
Les gardes alternées, comme avec les enfants.
Et voilà. Et vous savez ça mieux que moi, mais il m'a semblé que s'il y avait quelqu'un à qui il avait été attaché, c'était Suzanne.
C'est ce qui est vraiment étonnant, parce que Suzanne Musard, c'était son nom, on peut dire qu'elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et c'est certainement la femme qui l'a fait le plus souffrir.
C'est bien ça. C'est donc celle qu'il a aimée.
Mais lui a probablement fait souffrir aussi quelques femmes de son côté, donc c'était justice. Mais on nous a raconté que le jour même de son mariage avec Suzanne Musard, je crois en 27 ou en 28, qui était donc sa deuxième épouse, dès la sortie de la mairie, Suzanne a dit « Bon, et bien maintenant je retourne chez Breton ».
Oui, c'est ça.
Et effectivement, ça a duré 2-3 ans. Ça a été, ça n'a fait qu'envenimer la querelle de Berle avec les surréalistes. Berle a été proche des surréalistes. Il a même écrit quelques textes d'écriture automatique qui n'ont pas été très très concluants, mais il aspirait véritablement à devenir un surréaliste. Et les surréalistes l'ont battu assez froid lorsqu'il s'est rendu compte que Ragon, notamment, à qui il a été très lié d'amitié également, s'intéressait quand même beaucoup à son argent, puisque Berle, jusqu'en 1930, est un homme riche. Qui peut aider à financer les projets du mouvement surréaliste. Et suite à ça, Berle décide qu'il va divorcer, se marier avec Suzanne Musard, qui est déjà l'amante de Breton, et vendre tout son paquet d'actions dans la société familiale, la société Berle, de façon à ne plus subir les critiques des surréalistes.
Un autre aspect de la pensée d'Emmanuel Berle, qui est peut-être la surprenance, et on le trouve dans son ouvrage sur la présence des morts, il parle de cette présence de la vie des morts en nous, ce qui le rassure. Écoutez-le en parler, parce que c'est assez troublant. C'est comme s'il avait accès à une autre dimension de notre existence.
Je crois que si on regarde les choses de plus près qu'on a l'habitude de faire, et ça m'est arrivé parce que Présence des morts est un livre qui m'a coûté 4 ans de travail. On s'aperçoit que la vie des morts en nous est beaucoup plus variée, beaucoup plus riche, beaucoup plus obscure que nous ne pensons quand nous allons tous les 2 novembre au cimetière mettre des fleurs et nous considérer comme quittes envers eux. Ce qui nous détache des morts, c'est la vie, n'est-ce pas ? C'est d'abord que nous ne pensons qu'à nous, et ensuite que nous pensons aux morts par rapport à nous. Alors, quand quelque chose nous ennuie, nous invoquons les morts pour dire s'ils étaient là, ils nous empêcheraient de le faire. Ils seraient bien d'avis que je ne livre pas mon article, que j'aille pas au bureau, que je travaille pas, que je fasse ce qui me fait plaisir. Et on trouve toujours une grand-mère, une tante quelconque à invoquer pour justifier ses passions. Présence des morts commence à l'hôpital. Mon livre était déjà fait, à la vérité, quand j'ai été opéré. Mais mon opération m'a remis beaucoup de choses en ordre, parce que j'étais moins vivant que d'habitude, j'étais moins obsédé par mes soucis personnels. Et de même, à la fin de mon livre, quand je montre cette femme qui est devant moi au Palais Royal, qui ne sort jamais, qui vit dans une espèce de méditation...
De vie cloîtrée
à moitié folle, je crois que son rapport avec les morts est très différent du nôtre, parce qu'elle ne fait pas de métier, parce qu'elle n'a plus d'intérêt propre, n'est-ce pas ? En définitive, les morts vivent d'autant plus que je consens à vivre moins.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons d'Emmanuel Berle aujourd'hui, Cavalier seul. C'est le titre de la biographie co-écrite par Olivier Philipponac qui est avec nous en studio et Patrick Linhart, disponible aux éditions Vibert. Et Jean d'Ormesson est également avec nous en studio pour évoquer cet homme avec lequel il a discuté notamment à la radio. Les entretiens sont disponibles et on trouve une préface de Jean d'Ormesson dans cette biographie. Présence des morts est un ouvrage qui paraît en 1956. Est-il écrit à une occasion particulière, Olivier Philipponac?
À deux occasions, on peut dire. La première, c'est effectivement une opération médicale qu'il a subie peu de temps auparavant, et qu'il fait donc songer à sa fin possible. Et aussi le fait que Berle a écrit quelque part que les morts ne sont vraiment morts que lorsqu'on les oublie. Et c'est quelqu'un qui se distingue par sa fidélité aux morts. C'est quelqu'un, Berle, qui n'a jamais craché sur aucun cadavre. J'entends par là que il a conservé au-delà de la mort son amitié malgré leurs erreurs fatales à Drieux-La Rochelle, à Pierre Laval, dont il a été un ami proche lorsqu'il était maire d'Aubervilliers dans les années 30. Et c'est aussi ce besoin de leur prouver par-delà la mort, leur fidélité qui transparaît dans Présence des morts. Dans Présence des morts, il y a un magnifique chapitre sur la mémoire de Drieux-La Rochelle. Berle n'ignore absolument rien de ce qu'a écrit, de ce qu'a dit Drieux-La Rochelle. Il ignore encore ce que Drieux-La Rochelle a dit de lui, dans son journal particulier, dans son journal de guerre, par exemple. Des choses vraiment monstrueuses sur cet homme qu'il a pourtant tant aimé. Voilà, Présence des morts, je pense que c'est avant tout ça, c'est fidélité à la mémoire des disparus et fidélité soi-même par la même.
Et en se demandant ce que les morts pouvaient dire de lui, il se dit que lui-même allait parler de ceux qui étaient morts. Cette façon de vouloir dialoguer avec ceux qui ne sont plus, c'est très émouvant, Jean d'Ormesson.
Oui, bien sûr. Il y a un titre merveilleux, c'est « Il fait beau, allons au cimetière ». J'avais adoré ce titre. Et la présence des morts a été très importante pour Berle, certainement. Il y a un aspect dont nous n'avons pas parlé du tout, c'est l'attachement. J'étais en désaccord avec Berle en politique. Il était très munichois, en effet, vous l'avez dit. Il était très munichois, il était ouvert à, vous savez, il était terriblement ouvert à toutes les possibilités. Je lui avais dit un jour, vous avez eu la chance que ça n'ait pas mal tourné pour vous au moment de la collaboration. Il s'est quand même tenu, mais il hésitait, vous savez, il hésitait. Et il y a une chose sur laquelle il n'a pas hésité et où il a été magnifique, c'est sur l'Europe. C'est une des grandes voix de l'Europe. Ce qu'il a dit de l'Europe touche quelquefois à la prémonition.
Et il a eu le courage de le faire dès l'après-guerre, oui. Où l'Europe avait mauvaise presse oui. pendant quelques années, puisque l'unification européenne, les nazis en avaient rêvé aussi. Malraux, après-guerre, se détourne de l'idée européenne pendant quelques temps. Berle, dès 1946, ce qui est assez courageux de sa part à lui, oui. publie le premier tome de son Histoire de l'Europe, oui. commencé avant-guerre. Et...
Qui est très bien.
Oui, qui reste très bien, qui n'a pas été un succès de librairie.
Non, mais aucun livre de Berle.
Oui, c'est ça. C'est que finalement, quels sont les livres qui, de son vivant, ont vraiment rencontré beaucoup de lecteurs et ont pu marquer. Aucun, vous dites ? Olivier Philipponnet.
Oui, il y a quand même le livre que moi je considère comme son meilleur roman, même si tout est plus ou moins vrai. Ouais. C'est La fin de la Troisième République, qu'on continue à republier et à relire, puisque Gallimard lui a commandé en 60.
C'est très très bien.
Ah, c'est
Mais
magnifique.
Est-ce que ça a été un succès?
Je crois que oui, c'est le livre qui lui a fait rencontrer Modiano, en tout cas.
Oui.
Et Gallimard lui avait commandé cette fin de la Troisième République. Berle s'était énormément documenté sur le sujet et puis finalement a écarté toute cette documentation pour raconter ce qu'il avait vu. Et pour faire des portraits des gens qu'il avait croisés dans le premier Vichy. Et puis il y a aussi les entretiens avec Modiano, interrogatoires, qui, mm-hmm. je pense quand même, continuent encore aujourd'hui à être republiés et à être lus. Qui est l'autobiographie qu'il n'a pas écrite.
Mais comment vous expliquez qu'il ait rencontré si peu de succès ? Parce qu'il suffit de lire un peu ses ouvrages pour voir que c'est une langue qui est très belle, des paroles souvent très touchantes, des histoires qui ne sont pas du tout inintéressantes. Pourquoi si peu de lecteurs ?
Peut-être qu'une réponse possible, c'est que les Français aiment les étiquettes. Et il est très difficile de coller une étiquette à Berle. Ce n'est pas vraiment un romancier. Ce n'est pas vraiment, vous le savez, un philosophe. Ce n'est pas vraiment un sociologue. C'est à peine un essayiste. Qu'est-ce qu'il est ? C'est une espèce de protée qui change tout le temps, qui passe d'une opinion à l'autre, qui a des amis qu'il n'aime plus et des adversaires qu'il adore. Tout ça est très difficile, il est très compliqué de le mettre dans un compartiment, et c'est quand vous êtes dans un compartiment que vous devenez célèbre.
Donc vous dissociez vraiment ici son œuvre de sa propre, de son existence en réalité.
Oui, son chef-d'œuvre, c'est son existence. Et son chef-d'œuvre, c'était sa conversation.
Mais alors, pourquoi, justement, vous disiez que ces conversations, vous y aviez peu de part, finalement, c'est lui qui parlait. Donc, pourquoi y retourniez-vous chaque jour,
moi,
deux ou trois fois par semaine ?
Exactement ce que vous disiez tout à l'heure, ouais. L'interlocuteur dans les dialogues de Platon, celui qui dit « oui, assurément, Socrate, oh, certes non, Socrate et, ». Et c'était lui qui parlait tout le temps. Tout le temps. C'était très, très naturel. Et évidemment, j'étais fasciné, comme beaucoup de gens l'ont été. Tout à l'heure, vous avez prononcé le nom de Fénelon et le Télémaque. C'est vrai, il aimait beaucoup Fénelon. Et c'est lui qui m'a fait lire les aventures de Télémaque. Il aimait beaucoup une formule tellement belle. Calypso... Quand Ulysses quitte Calypso, Fénelon dit « Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Dans son malheur, elle se trouvait triste d'être immortelle. » C'est quand même épatant. Mmh. Et alors là-dessus, il brodait des choses merveilleuses.
Fénelon, oui, rappelait aussi que c'est l'auteur du dialogue des morts, ou des dialogues des morts.
Oui, bien sûr.
La source de présence des morts, elle se trouve peut-être là aussi.
Bien sûr.
On va entendre quand même quelques lignes de ces écrits interprétés par un comédien. Parmi les nombreux ouvrages, il y a Rachel et autres grâces. Je ne sais pas si cet ouvrage fait grâce à vos yeux, justement, si c'est un des ouvrages que vous aimez lire. 1965, je parle sous votre contrôle, Olivier Philipponin. Donc voici un extrait de Rachel et autres grâces, interprété par Jean-Pierre Cassel. Écoutez.
Je l'ai rencontré dans le train de Paris à Nemours, bien avant la guerre de 14, en 1911, je pense, ou même en 1910. Je rentrais de Suisse, j'allais chez ma tante, Berthe Franck. Mes parents étaient malades, comme toujours. Des cheveux blonds, un peu frisés, pas trop. Des yeux noisettes, un nez petit, froncé, aux narines vite palpitantes. Il faisait chaud. C'était l'été. On devinait très bien ses seins sous sa blouse. Je revois d'ailleurs ses seins ronds, écartés et fermes. Et je ne revois pas du tout la blouse. Elle me faisait très envie. Je pense qu'elle s'en rendait compte. Quoique je n'ai pas osé lui parler. Je suppose que je devais avoir l'air assez touchant d'un grand chien maigre au poil noir devant un plat qu'il n'ose pas laper. Nous étions seuls dans le compartiment. Avec beaucoup d'aisance, elle me demanda de lui descendre sa valise, et on causa. Pas longtemps. On s'embrassa très vite. Elle descendit donc avec moi, et nous allâmes dans un hôtel où elle réclama une grande chambre avec autorité. On a fait l'amour avec beaucoup de joie et de simplicité, comme si on en avait une habitude déjà longue. Je caressais éperdument ses seins, ses fesses, ses cuisses, nimbées d'un duvet blond, très léger. L'amour fini, nous reposions côte à côte, mon bras passé sous sa taille. J'étais avide de l'entendre et elle de parler. Elle s'appelait Rachel.
Olivier Philipponin, on est, et Jean d'Ormesson, on est bien loin ici de l'homme qui va défendre l'Europe. On est dans des descriptions très précises de l'émoi dans lequel le transporte cette Rachel.
Oui, c'est l'histoire de sa...
Olivier Philipponin.
Cette Rachel est la première femme, dit-il, avec qui il a eu une relation charnelle vers l'âge de 18 ans à peu près. Et c'était une femme mariée, ce qui n'est pas dit dans l'extrait. Mais... ce titre « Rachel et autres grâces » dans l'esprit de Berle, ça signifie que de même que les idées, il faut accueillir toutes les femmes de la vie comme autant de grâces qui vous sont données. On a parlé de Fénon, il faut en reparler parce que Berle a écrit sa thèse d'étudiant sur le quiétisme et sur la querelle du quiétisme avec Bossuet. C'est une notion très importante dans sa vie. Tout ce que le destin vous envoie, idées, hommes, femmes, il faut savoir le recevoir de la même façon qu'il faut savoir les quitter et les dépasser. Ce qui justifie beaucoup de choses et entre autres le libertinage. Je pense que, je ne sais pas ce qu'en pense Jean d'Ormesson, mais je pense que le terme, le qualificatif de libertin, dans toutes ses acceptions, convient bien à Berle.
Mais bien sûr, c'était un libertin, bien sûr. Il était libertin avec les femmes comme il était libertin avec les idées. Il passait de l'une à l'autre. Et moi, j'étais évidemment très naïf et très ignorant. Longtemps, je me suis demandé si Rachel et Sylvia n'étaient pas la même femme. Parce que je ne savais rien, moi, de sa vie. Il me parlait de Rachel, il me parlait de Sylvia. Je me demandais s'il inventait. Ou...
Sylvia, le titre d'un autre texte de lui, hein, qui date de 1952.
Bien sûr. La seule dont j'ai eu l'impression qu'il y avait une réalité derrière, c'était Suzanne.
Alors vous l'avez su, je pense que Mireille ne l'a pas su. Même s'il n'y avait plus de relation entre Suzanne Musard et Berle du temps où il a connu Mireille. Mais il est certain qu'il est resté en tout cas en contact au moins épistolaire avec Suzanne et peut-être avec d'autres jusqu'à la fin.
Alors Jean d'Ormesson, un dernier mot, et Olivier Philippona, que dites-vous à des gens qui n'ont jamais lu une ligne d'Emmanuel Berle? Par quoi doivent-ils commencer? Qu'est-ce que vous les invitez à lire?
Je dirais que quand même, Rachel et l'autre grâce est un livre délicieux. Il faut lire le livre de Cecilia. Et si on est très très sérieux, il faut lire son histoire de l'Europe.
Olivier Philippona?
Moi, je pense qu'une bonne introduction, c'est le
livre... C'est votre biographie, c'est vrai.
Non, pas du tout. Non, non,
c'est moi qui le dis.
C'est le livre d'entretien avec Modiano qui est paru peu de temps après la mort de Berle en 1976 et qui est tout à fait merveilleux, où on retrouve vraiment tout l'esprit de Berle. Et puis Sylvia, je le cite aussi. Parce
bon, tous
que
les deux, alors vous êtes d'accord.
C'est son chef-d'œuvre et c'est un livre dont Mauriac a dit lorsqu'il est paru en 1952, c'est le premier grand livre dans la lignée de Proust. Et effectivement, ce n'est pas un livre de souvenirs, c'est un livre sur le souvenir et sur l'impossibilité de se souvenir tout à fait de sa propre vie.
Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus en parler aujourd'hui. Et je renvoie à cette biographie, donc, co-écrite par vous, Olivier Philippona, avec Patrick Lienhardt, et dont on trouve une préface de vous, Jean d'Ormesson. Emmanuel Berle, Cavalier seul, publié à la librairie Vuber. Alors, on se quitte avec Mireille, qui d'autre?
Tous les poètes au clair de lune, depuis des siècles, font rimer. Blonde avec monde, brune et fortune, amour toujours, aimé, pas aimé. Caresse ivraie, si rose éclose, je veux changer toutes ces choses. Je ferai rimer s'il me plaît. Amour avec chapeau, toujours avec jamais. Je veux aimer ce soir un jeune homme aux yeux verts. Si ses yeux étaient noirs, ça ferait un plus beau vert. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je devrais dire sur les lèvres, mesdames, chacun son goût. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Je devrais dire les mains, ce serait plus régulier. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Nah. Il suffit que Margot soit brune pour qu'on l'emmène au clair de lune. Mais si ses cheveux sont châtains, ça se passe au petit matin. Et si la pauvre fille est blonde, on l'expédie au bout du monde. Tous les deux avec mon Gaston, nous ne faisons jamais de verre et nous nous en foutons. Gaston ce soir en douce m'attend sur le pavé, je devrais dire sur la mousse, et il en a pas trouvé. Quoique je l'idolâtre, il me bat comme un chien, je devrais dire comme plâtre, mais ça n'arrange rien. Tant pis si c'est un crime, il s'en fout de la rime. Quoique je l'idolâtre, il me bat comme un chien. Pour calmer ma douleur, il m'a donné des frites. Oh si c'était des fleurs, ça serait plus poétique. Tant pis si c'est un crime, je m'en fous de la rime. Pour calmer ma douleur, il m'a donné des frites. Mais la fin du poème, la fin sera quand même, sera toujours la même. On se dira, je t'aime. Et puisque c'est un crime, gardons la vieille rime. À la fin du poème, je lui dirai, je t'adore.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui?
Eh bien, on va écouter un peu de musique aujourd'hui, puisque les éditions Albin Michel nous font un très beau cadeau, ça va vous plaire. C'est la publication de textes inédits du philosophe musicien Vladimir Jankélévitch. Oui, ça vous plaît. Texte écrit entre 1929 et 1983 et rassemblé sous le titre de l'enchantement musical. Et à les lire, on préférerait même se taire, écouter ce que Jankélévitch appelait des morceaux de temporalité enchantée, morceaux entre le silence et la parole qui en disent plus que le premier et la seconde. Mais, et c'est bien la question de la musique soulevée par les philosophes, ces morceaux enchantés, que nous disent-ils ? nous dit la musique selon Jean Kelevitch? Nous dit-elle une pensée, un langage, un objet ou au contraire rien de tout cela? Et que nous dit par exemple le Requiem opus 48 de Gabriel Fauré que l'on entend, que le philosophe évoque ici dans cet ouvrage? Très rapidement, on pourrait dire que les pensées de la musique se caractérisent par deux interprétations. Soit elle la ramène à une entité autre qu'elle-même et qu'elle exprimerait, ou elle la rappelle à elle-même et tente d'en dégager une essence. Mais pour Jean Kelevitch, ce n'est ni l'une ni l'autre de ces tentatives que l'on trouve, car la musique de Fauré, par exemple, est la mort, selon lui. Elle est la mort, mais pas parce qu'elle exprime la mort ou nous mène au néant, mais parce qu'elle retire toute matière, toute substance, tout corps, parce qu'elle allège. Ni quelque chose, ni rien. La musique se fait donc légèreté, un presque rien, un je ne sais quoi. Autre compositeur que chérissait Jean Kelevitch, Liszt, et plus précisément ses pièces, Années de pèlerinage, auxquelles il consacre de très belles pages. Alors comment saisit-il ces pièces musicales? Comment parvient-il même à les saisir si la musique allège, si elle n'est pas rien, mais presque rien, si elle est un je ne sais quoi? Charme, mystère, inexprimable, infini, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent chez Jean Kelevitch quand la parole prend le relais de la musique, comme si le langage ne faisait que redoubler l'indéfinissable, celle des impressions glanées au long d'un voyage en Suisse et en Italie, comme on vient de l'entendre avec Liszt. Charme, impression, mystère, finalement, pourquoi vouloir saisir la musique? Pourquoi vouloir lui donner une pesanteur? Eh bien, c'est peut-être la question que nous pose ici Jean Kelevitch. On ne pouvait clore cet enchantement musical avec Jean Kelevitch sans avoir entendu son adoré Debussy. Pas de décor trop appuyé, de paysage trop précis, de bruit trop réel. Seulement le pur plaisir des sons qui s'envolent et nous saisissent, qui nous poussent à la surprise et non au savoir.
Merci Géraldine, c'est vous qui nous faites un cadeau en nous faisant écouter ces trésors et en nous parlant de Jean Kelevitch aujourd'hui. Le livre, c'est donc
L'Enchantement musical. C'est des textes inédits parus chez Albin Michel. L'édition est établie par Françoise Schwab avec la collaboration de Jean-Marie Brun et il y a une très bonne préface de Françoise Schwab justement.
Merci Géraldine, je vous propose une fois n'est pas coutume qu'on reste avec Debussy, on n'a pas fini d'explorer la mer. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Marianne Chassor, David Pargamin, Louis Servet, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine avec Olivier Bétard aujourd'hui, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine sur les philosophies d'Iran. Et oui, on vous emmène en voyage en Iran la semaine prochaine, de la philosophie iranienne jusqu'à la poésie amoureuse, la révolution iranienne aussi quand la religion reprend le pouvoir et enfin un pays sous le regard des cinéastes. La semaine prochaine, donc, on vous emmène en voyage. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Vous pourrez également la réécouter en ligne ou bien la télécharger, c'est-à-dire la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur le compte Facebook et Twitter des Chemins de la Philosophie, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous lundi à 10h, donc, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.